est installée. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Élodie Rommel qui s'installe, qui est sociologue, qui est enseignante à l'université de Montpellier, à l'ITIC, c'est ça, Élodie, à l'ITIC, et qui est également chercheur associé au centre Max Weber, et c'est plutôt par cette connexion que nous sommes entrés en relation avec Élodie dans le cadre d'une recherche sur les pratiques de lecture, les cheminements de jeunes adultes lecteurs, une recherche très qualitative, hein, qui permet d'actualiser pas mal de choses justement sur le rapport à la lecture parmi les jeunes adultes. Alors je rappelle que la lecture est devenue une grande cause nationale, hein, donc c'est l'occasion d'apporter peut-être une petite contribution à la connaissance des pratiques de lecture des jeunes aujourd'hui. Élodie, je te laisse la place.
Merci Christophe. Bonjour à toutes et tous. Merci aux organisateurs de la journée, hein, pour cette invitation. Je suis ravie, comme ça a été dit précédemment, de pouvoir communiquer de visu avec vous aujourd'hui. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui sont les premiers résultats d'une enquête sur les goûts et pratiques de lecture de jeunes adultes. La question que je me pose dans cette enquête, hein, c'est qu'est-ce que ces études de cas, hein, parce qu'on va voir que c'est vraiment des études de parcours individuel, qu'est-ce que ces études de cas nous disent de la lecture en général chez les jeunes à l'ère de l'éclectisme et du numérique. Donc je commence par quelques mots sur la méthodologie de l'enquête, qui s'inspire en grande partie du travail qui a été fait par Gérard Mauger, Claude Pauliac et Bernard Pudal dans Histoire de lecteur. Donc une approche très qualitative, hein, comme l'a rappelé Christophe, avec des entretiens biographiques approfondis avec des lecteurs et une analyse et une présentation de ces parcours sous forme de portraits. Donc j'ai interrogé 16 jeunes adultes âgés de 25 à 30 ans sur leur goût et pratique de lecture, sur leur parcours biographique, sur les évolutions de leur pratique lectorale et sur leur représentation de la lecture. Donc les objectifs de cette enquête, ils étaient de deux grands ordres. Le premier, c'est à travers l'analyse des parcours biographiques, du lien, pardon, entre parcours biographique et parcours lectoraux, essayer de saisir les subtilités qui échappent aux grandes enquêtes statistiques, hein. Donc toutes les choses qui sont de l'ordre des usages sociaux de la lecture, notamment en termes de construction de soi au passage de l'adolescence à l'âge adulte, le poids des différentes instances de socialisation à la lecture et les espaces de jeu possibles, hein, face aux déterminismes sociaux. Autre enjeu important de cette enquête, c'est essayer de saisir les contours, d'appréhender les univers lectoraux dans leur diversité. Diversité à la fois en termes de support, hein, en prenant en compte les lectures numériques, les lectures fragmentaires, hein, comme la lecture de billets de blog, d'articles en ligne, etc. Diversité en termes de niveau de légitimité, diversité en termes de contexte, hein, lecture personnelle versus lecture scolaire ou professionnelle, et en replaçant également ces pratiques de lecture au sein des univers culturels dans leur globalité, en regardant par exemple, hein, les liens qu'il peut y avoir entre lecture et écriture, entre la lecture et d'autres loisirs ou avec des pratiques de sociabilité. Donc, je rappelle, avant de poursuivre, hein, qu'il s'agit d'un travail vraiment en cours, un work in progress. Donc ce que je vous présente aujourd'hui, c'est les premières pistes d'analyse qui s'appuient sur l'ensemble des entretiens qui ont été réalisés, mais sur une étude de détail. Enfin voilà, pour l'instant, j'ai fait vraiment dans le détail seulement 6 cas. Donc, je vais commencer par parler des parcours lectoraux au prisme des parcours biographiques. Donc, quand on regarde les enquêtes, les grandes enquêtes quantitatives, hein, comme celle du Centre national du livre ou les enquêtes pratiques culturelles des Français, on a un constat qui revient assez fréquemment d'une baisse de la lecture chez les jeunes, hein, quand on regarde les grandes tendances. Mais cet agrégat statistique masque souvent, au niveau individuel, des choses un petit peu plus subtiles, hein, des variations au cours du temps, avec des phénomènes d'arrêt, de reprise, d'évolution des pratiques, en lien avec le parcours personnel des individus. À cet âge de la vie, hein, au passage de l'adolescence à l'âge adulte, il y a un certain nombre d'évolutions des conditions de vie, le début des études, l'entrée dans la vie active, la décohabitation parentale, la mise en couple, l'éventuelle arrivée d'enfants, tout un tas d'éléments hein, qui font que les conditions de vie peuvent évoluer de façon importante et avec elles les pratiques électorales qui sont, comme on l'imagine bien, dépendantes des moyens financiers, mais aussi de la proximité des lieux d'approvisionnement, des sociabilités électorales et également de la disponibilité des individus. Disponibilité aussi bien en termes de temps de loisirs hein, que de disponibilité intellectuelle, fatigue, etc. Donc je commence par développer un petit peu cette influence des conditions de vie. On comprend bien hein, que le travail salarié, l'entrée dans la vie active peut être favorable, facilite généralement l'achat de livres, hein, ce qui peut occasionner une augmentation quantitative des lectures. Donc ça c'est l'aspect peut-être le plus évident, mais j'ai pu observer que cela va aussi faciliter, dans certains cas, la prise d'autonomie des jeunes adultes, leur capacité à affirmer leur goût de lecture en tant qu'individu. Hein, et c'est un effet qui est renforcé également par la décohabitation parentale. Alors, pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple de Yann. Donc, je vous projette un extrait du portrait de ce lecteur que je vais lire en partie. Donc les pratiques lectorales de Yann sont marquées par l'influence de son père, qui l'a initié à la lecture, mais elles se construisent également contre celle-ci, contre cette influence, dans une démarche d'affirmation de soi. On observe un effet émancipateur de la décohabitation parentale dans les pratiques de loisirs de Yann, et notamment dans ses lectures. En effet, depuis qu'il a quitté le foyer paternel, il jouit d'une plus grande liberté pour jouer aux jeux vidéo et pour lire ce qui l'intéresse sans subir les jugements parentaux. Alors, ce qui l'intéresse, hein, sans rentrer dans le détail de l'ensemble des goûts du lecteur, ça va être d'un côté ce qu'il appelle des lectures spirituelles qui sont centrées en grande partie sur la philosophie asiatique. Il cite par exemple hein, le livre tibétain de la vie et de la mort, mais aussi des lectures en lien avec les univers de jeux vidéo, hein, c'est pour ça que je parlais des jeux vidéo, comme les novélisations tirées des univers de StarCraft, World of Warcraft et toujours en lien avec les jeux vidéo, hein, Metro 2033 par exemple. Donc, il nous dit hein, ainsi, il décrit son père comme quelqu'un qui juge beaucoup et l'empêche parfois de penser par lui-même. Et donc, la prise d'indépendance à la fois domestique, puisqu'il il a quitté donc, le foyer paternel, et financière, vient lui permettre hein, de pouvoir acheter ce qu'il voulait sans avoir de compte à rendre. Et donc, à l'heure actuelle, ça lui permet de s'affirmer pleinement hein, à travers ses loisirs. Il dit donc « je suis moins dans le suivisme, mais plus dans l'initiative ». Alors, au contraire, hein, chez d'autres lecteurs et lectrices, les achats sont restreints au moment où j'ai effectué l'enquête pour des raisons économiques, hein, notamment en raison de périodes de chômage. C'est le cas de Nathan, dont je reparlerai un petit peu plus tard. Et dans ces cas-là, d'autres modes d'approvisionnement que l'achat, hein, comme l'emprunt en bibliothèque ou également parfois le téléchargement illégal, hein, donc le piratage des livres, vont être favorisés comme alternative par ces lecteurs dans des conditions économiques difficiles. Dernier point qui, au niveau des conditions de vie qui peut avoir une influence, mais je vais aller un petit peu vite parce que je vois que je suis déjà très en retard, c'est la proximité ou l'éloignement des lieux d'approvisionnement, hein, les bibliothèques, les librairies ou des réseaux de sociabilité, hein, des amis qui lisent. dans la mesure où les conseils de lecture, la possibilité de s'échanger des livres, de parler de ces lectures, va avoir souvent un rôle positif dans la mise à la lecture. Donc les études, de leur côté, donnent lieu à un certain nombre de lectures scolaires, qu'il s'agisse de lire des manuels, des romans classiques ou encore des livres de sciences humaines et sociales. Au-delà de l'injonction à la lecture de certains titres, le cadre universitaire joue également sur les manières de lire, généralement plus contraintes que dans le cas de lecture personnelle, avec la nécessité de lire de la première à la dernière page, de prendre des notes, souvent de relire, d'avoir une lecture attentive au paratexte, etc. Au niveau du master, ces lectures peuvent même prendre une place considérable avec la rédaction de mémoires de recherche ou de fin d'études. C'est le cas par exemple pour Mélanie, qui travaille sur un mémoire sur l'histoire de femmes peintres issues de minorités ethniques et donc qui lit beaucoup de livres sur l'histoire des femmes dans la peinture, sur l'histoire de la colonisation, de la décolonisation. Elle cite par exemple le titre « Peau noire, masque blanc » de Frantz Fanon. Et les études peuvent également favoriser l'intériorisation des hiérarchies de légitimité culturelle, en particulier quand il s'agit d'études littéraires ou artistiques, et renforcer le sentiment d'illégitimité culturelle des individus, les incitant ainsi à lire des titres plus reconnus pour combler ce qu'ils perçoivent comme des lacunes culturelles. Donc ça, c'est le cas également de Mélanie, qui a intégré une école de dessin privée assez prestigieuse après son baccalauréat. Donc au début, tout se passe bien, elle apprend beaucoup de choses, etc. Mais elle va ressentir un malaise assez rapidement, puisqu'elle va ressentir cette distance sociale et culturelle avec ses camarades de classe. Je me suis rendu compte qu'il y avait un fossé entre eux et moi. Ma famille m'a toujours mise sur un piédestal en me disant t'es super intelligente, tu connais beaucoup de choses. Donc je pensais avoir un niveau correct de culture. Et en fait, malgré le fait que ma mère m'ait poussée à la culture, je ne pouvais pas combler le fossé. Donc par rapport à ses camarades plus aisés, elle va vraiment à ce moment-là développer un sentiment d'indignité culturelle avec l'impression d'un retard à rattraper et au niveau de ses lectures, ça va se traduire par des lectures plus fréquentes de classiques qui lui semblent manquer à son répertoire et dans un autre domaine culturel, elle va aussi, elle dit qu'elle a aussi des lacunes au niveau cinématographique, donc elle va dans le même temps essayer de regarder plus de films d'auteurs. Les lectures universitaires, par le temps et l'énergie qu'elles nécessitent, donnent souvent lieu à une baisse des lectures personnelles. Ça avait été, c'est quelque chose qui avait été observé également par Morgane Maridet dans sa thèse sur les lectures d'étudiants de classe préparatoire littéraire. On observe un phénomène de fatigue face à la lecture, où du coup, dans le temps de loisir restreint qui reste, les individus vont plus volontiers se consacrer à des activités perçues comme plus faciles, comme le visionnage de films ou de séries, ou moins solitaires, comme les sorties entre amis. Et en conséquent, la fin des études donne souvent lieu à une véritable libération de la lecture. Parfois, après un temps de pause, il y a parfois un phénomène un petit peu de saturation, et donc ça prend quelques mois ou quelques années pour que les individus se remettent à lire. La lecture retrouve alors des formes plus libres et plus variées, avec par exemple plus de lectures de bandes dessinées ou plus de lectures de titres considérés comme légers, un petit peu moins légitimes. Tout comme les études suivies, le parcours professionnel peut donner lieu à des lectures spécifiques, qu'il s'agisse d'une composante explicite du travail professionnel, comme pour Quentin, professeur de français, ou de lectures plus facultatives, liées à un intérêt professionnel, comme pour Fabien, professeur de mathématiques, ou Lucie, professeur des écoles, Oui, donc c'était la série d'exemples tirés de l'éducation nationale, qui vont lire beaucoup d'articles de pédagogie ou de livres sur l'éducation hein, par intérêt professionnel, mais sans que ce soit quelque chose d'obligatoire dans leur pratique professionnelle. Mais on a aussi hein, des lectures professionnelles qui sont de l'ordre des lectures pratiques, hein, des lectures utiles dans le cadre professionnel. Yann, hein, l'amateur de lecture spirituelle et de novélisation de jeux vidéo dont je parlais précédemment, qui est technicien paysagiste, par exemple, va lire beaucoup de choses sur les plantes, soit des livres vraiment sur les plantes, soit des notices hein, sur tel ou tel type de plante pour l'aider dans ses choix, par exemple quand il doit constituer un nouveau massif, etc. Donc j'ai mis un petit extrait d'entretien ici de Quentin, le professeur de français, qui distingue hein, plusieurs types de lecture dans l'ensemble de ses pratiques et qui fait bien nettement hein, la distinction entre ces lectures personnelles, donc des lectures d'ordre purement privé, émotionnel, qui vont réveiller quelque chose chez lui, qui percuter sa sensibilité, hein, je le cite, et les lectures qu'il fait pour les élèves. Là, il y a un troisième type de lecture qui sont les lectures plutôt liées à la recherche, hein, puisqu'il il fait également, en parallèle de son activité professionnelle, un travail de recherche en littérature. Mais les parcours professionnels ne sont pas toujours rectilignes. Hein. Certains sont marqués par des bifurcations, des reconversions, dans lesquelles la lecture peut jouer un rôle décisif, que ce soit dans la prise de décision, ou dans l'accompagnement ou l'acquisition de nouvelles compétences professionnelles. Par exemple, Agathe, suite à des problèmes de santé, a été longuement hospitalisée et dans ce contexte, elle a développé un intérêt pour la médecine et aussi pour le rapport, enfin pour le soin de façon générale hein, et pour le rapport entre médecin et patient. Et elle a effectué de nombreuses lectures sur le sujet, hein, à la fois pendant son hospitalisation et par la suite. Elle cite par exemple le Cœur des femmes de Martin Winkler, mais aussi hein, d'autres exemples moins fictionnels. Et au moment de l'entretien, elle est en train de se réorienter dans le domaine médical hein, après avoir fait des études en sciences humaines. Autre exemple, Marie-Lou, qui est aide-soignante, qui a développé un intérêt pour le développement personnel et les thématiques écologiques, en particulier à travers ses lectures. C'est vraiment un intérêt qui émerge à la base dans ses lectures et petit à petit qui va se transformer en une possibilité professionnelle, hein, puisque, étant peu satisfaite de son activité dans le domaine médical, elle décide de se lancer dans une activité de coaching et de sensibilisation aux questions écologiques, et en particulier à la démarche zéro déchet. Donc, elle va faire la promotion, en particulier sur YouTube. Je passe au deuxième temps de ma présentation, hein, consacré aux univers lectoraux en lien avec les univers culturels, hein, aux univers lectoraux à l'ère de l'éclectisme et du numérique. Donc liés au parcours biographique des individus, les lectures ne sont pas non plus isolées au sein de leurs univers culturels. Au contraire, elles sont souvent liées à des centres d'intérêt, voire à des passions qui s'expriment également dans d'autres domaines culturels. Les lectures vont alors devenir source d'informations théoriques ou pratiques et peuvent servir d'outils à d'autres types de loisirs ou encore être inspirées hein, par d'autres domaines culturels. Alors, il paraît guère surprenant, évidemment, que les centres d'intérêt des individus puissent orienter leur choix de lecture, mais dans certains cas, la lecture va s'inscrire véritablement au centre d'une constellation de pratiques culturelles autour d'une thématique commune, par exemple celle des univers imaginaires, qui dépasse la seule lecture hein, et qui va caractériser différents domaines du quotidien des lecteurs et lectrices. Donc c'est le cas de la passion de Yann, hein, que je citais précédemment, pour les univers imaginaires, imaginaires de science-fiction, de fantasy, qu'il retrouve à la fois dans les jeux vidéo et dans ses lectures. Il a également un intérêt pour l'histoire médiévale, là aussi, hein, qui s'étend à la fois sur les lectures et sur la pratique des jeux vidéo. Donc dans son parcours, ses intérêts se sont d'abord exprimés dans la pratique des jeux vidéo, et c'est seulement dans un second temps, hein, quand il a ressenti le besoin d'approfondir l'exploration de ces univers, qu'il a développé des pratiques de lecture autour de ces thématiques. Et donc dans ce cas, hein, c'est la passion issue d'un autre domaine culturel, le jeu vidéo, qui fonctionne comme une incitation à la lecture. Donc il me raconte que le jeu vidéo, hein, fait partie depuis son enfance de ses pratiques, à l'école primaire avec la Game Boy, la PlayStation, puis d'autres plateformes, et que c'est seulement à la sortie du lycée, hein, vers 18 ans, qu'il a fait cette démarche d'aller vers les novélisations de jeux vidéo. Ça a été plus tard, quand j'étais capable de faire cette démarche aussi, de dire « je veux aller plus loin dans le jeu ». Donc il démarre avec des lectures ponctuelles, comme la série de romans issus du jeu StarCraft. Hein. Il me dit notamment que c'est le premier roman qu'il a lu en entier, hein, dans l'ensemble de son parcours lectoral, enfin qu'il a lu en entier de lui-même, hein, si on exclut les lectures scolaires, et encore qui n'étaient là pas toujours faites avec le plus grand sérieux. Puis ces lectures vont se multiplier, hein, et il fait aussi le lien entre le développement de ces lectures et la prise de distance progressive vis-à-vis de la désapprobation paternelle à l'égard des jeux vidéo que j'évoquais au début de mon intervention. Alors ce qu'on peut noter, c'est que son père a des réticences vis-à-vis des jeux vidéo parce qu'il a lui-même eu des problèmes d'addiction face aux jeux vidéo, et donc il a peur, hein, que la même chose arrive à son fils. Donc Yann nous dit, hein, que c'est à partir du moment où il a assumé le fait que c'était pas quelque chose de mal, hein, le jeu vidéo, et si c'était fait dans certaines proportions, hein, que ça n'empêchait pas de vivre, et que c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est vraiment plongé dedans, donc à la fois dans le jeu et dans la lecture. Donc c'est vraiment ici l'affirmation de soi vis-à-vis de l'autorité paternelle qui va permettre à Yann de développer cette pratique et la pratique de lecture corollaire. De façon similaire, l'intérêt de Nathan pour la culture japonaise passe par la lecture de manga, en particulier One Piece, qui est son titre préféré, mais aussi par la fréquentation de conventions, hein, comme la Japan Expo, et par un engagement associatif pour la promotion des arts et traditions japonaises. Donc là aussi, hein, on a un intérêt culturel qui déborde le seul domaine de la lecture. Dernier exemple, Kenza, passionné de musique, hein, qui va régulièrement voir des concerts, probablement moins en ce moment, qui lit aussi beaucoup, hein, des biographies de musiciens. C'est une grande partie de ses lectures. Autre type de lien entre centre d'intérêt et lecture, le lien avec l'engagement politique ou militant. Ça va être le cas par exemple de Mélanie, qui se documente à travers ses lectures sur les thématiques féministes et postcoloniales qui lui tiennent à cœur, et sur lesquelles elle a travaillé également, hein, dans son mémoire. C'est l'exemple que j'évoquais précédemment. Donc, elle va faire des lectures, se documenter sur ces sujets, puis, ce qui est très intéressant, elle va ensuite partager ses connaissances sur les réseaux sociaux, ainsi que dans le cadre d'une activité associative. Donc, ce qui est intéressant avec cette lectrice, hein, c'est qu'elle a de nombreux échanges lectoraux en ligne, une grosse pratique de sociabilité sur Internet, et en particulier sur Twitter. Donc elle nous dit qu'elle aime bien en parler, hein, sur Twitter de ce qu'elle lit et d'échanger avec ses followers. Donc ça va donner lieu à des échanges avec d'autres internautes, hein, qu'elle peut connaître ou pas, plutôt qu'elle ne connaît pas la plupart du temps. Elle souligne que Twitter permet de rassembler les lecteurs et lectrices autour d'intérêts communs, de thématiques communes. Hein. Elle suit elle-même plusieurs comptes centrés sur les questions raciales, où elle trouve des idées de lecture, mais aussi hein, où elle peut partager des témoignages et des expériences vécues. Les réseaux sociaux constituent aussi pour elle un lieu de contact entre lecture et écriture, puisqu'elle va beaucoup échanger sur Twitter, elle va beaucoup écrire en fait sur Twitter, elle nous dit en forme d'échange avec des personnes, hein, c'est-à-dire j'écris beaucoup de choses de ma pensée politique ou des interrogations politiques sur certains sujets, hein, toujours comme le féminisme ou l'antiracisme. Et ces réflexions à l'écrit qui peuvent s'inspirer aussi hein, de ces expériences, d'événements du quotidien, trouvent leur source dans ces lectures. Si je lis un bouquin sur un sujet et que dans ce bouquin je vais trouver une réflexion, je vais essayer de vouloir en discuter avec d'autres personnes pour voir s'ils sont d'accord, voir ce qu'on peut en dire de plus, qu'est-ce que ça peut apporter vraiment, etc. Enfin, la lecture peut servir aussi d'outil dans le cadre d'autres pratiques de loisirs. Donc là, je parle plutôt de lecture pratique, informative, hein, comme la lecture de manuels, de guides ou de tutoriels sur Internet. Des lectures qui visent l'accomplissement d'actions concrètes et spécifiques. Hein. Par exemple, Mathilde consulte des magazines de scrapbooking. Aurélie cherche des recettes de cuisine ou des idées de décoration sur Internet. Et Fabien lit des guides topographiques pour préparer ses randonnées en montagne. Avec la généralisation d'Internet, les individus sont plus souvent confrontés à une surcharge d'informations qu'à des problèmes d'accès à l'information à proprement parler. Ça, c'est quelque chose qu'on peut observer de façon assez générale. Et l'activité électorale, qui nécessite du temps et de la concentration, s'accorde assez mal à ce contexte de surenchère médiatique, hein, en particulier la lecture de livres. Mais pourtant, on a d'autres types de lectures qui vont être favorisées par cette surenchère d'informations, d'autres types de lectures hein, qui se développent dans le contexte numérique, qui sont souvent plus fragmentaires, mais non moins importantes aux yeux des individus qui les pratiquent. Donc c'est le cas de certaines des lectures pratiques hein, que j'évoquais précédemment, recettes, tutoriels, conseils de voyage, qui peuvent se faire en ligne, mais ça va surtout être le cas des lectures informationnelles, hein, comme la lecture d'articles de presse ou de billets de blog, que j'observe chez une grosse partie des lecteurs interrogés. Je voulais présenter un exemple un peu plus en détail, celui de Steven, qui travaille comme secrétaire médical et qui est passionné par la science, par les avancées de la science, et qui va consacrer environ une heure par jour à lire des articles de vulgarisation scientifique sur Internet. Donc c'est en particulier sur le site de Science et Avenir, sur des sites comme Futura Science. Il regarde en particulier les thématiques sur les neurosciences et le fonctionnement du cerveau hein, qui le fascine. Donc ces lectures sont très régulières, hein, tous les jours, et elles sont effectuées uniquement dans un but didactique, apprendre des choses sur les sujets qui l'intéressent. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les seules lectures hein, de cet individu. Il n'a aucune autre pratique de lecture, mais pour autant, hein, celles-ci sont vraiment importantes pour lui. Une heure tous les jours, régulièrement. C'est des lectures qui donnent lieu à aucune sociabilité électorale. Hein. Il n'en discute pas, ou à peine, peut-être par... en évoquant certaines connaissances qu'il a acquises, mais il parle très rarement des lectures à proprement parler. Mais pour autant, elles sont importantes à ses yeux. Hein. Il nous dit clairement que c'est quelque chose qui lui manquerait s'il ne pouvait plus effectuer ce type de lecture. Alors, le format numérique peut concerner ces lectures... le format numérique peut concerner des lectures fictionnelles, également, hein, qu'il s'agisse de lire des livres en format numérique, sur liseuse, sur tablette ou sur smartphone, ou des récits amateurs publiés en ligne hein, sur des plateformes comme Wattpad ou Fiction Press. Ces autopublications sur Internet occasionnent un brouillage des frontières entre écriture amateur et écriture professionnelle, puisque certains récits publiés dans un premier temps sur ce type de plateforme peuvent donner lieu par la suite à des publications chez des éditeurs. Elle contribue également à faire évoluer la figure de l'auteur dans les représentations des lecteurs et des lectrices, notamment dans sa relation avec le public, puisque les auteurs publiés sont de plus en plus présents et accessibles sur les réseaux sociaux numériques, et que les auteurs et autrices amateurs, ceux qui publient sur Wattpad ou Fiction Press, construisent leurs récits souvent publiés sous forme de feuilleton en plusieurs épisodes au gré des retours et des commentaires des lecteurs et lectrices. J'ai une lectrice en particulier dans mon échantillon qui va avoir des pratiques assez intenses de lecture de fanfiction. Donc les fanfictions, c'est les récits qui sont écrits par des fans dans un univers préexistant, par exemple l'univers d'Harry Potter, l'univers Star Wars, Seigneur des Anneaux, etc. Des fictions amateurs, comme on dit, des fictions originales publiées sur Internet. Donc elle lit de façon générale, principalement en format numérique, que ce soit des romans publiés ou donc des fictions amateurs. Et dans son discours, on perçoit assez bien les transformations du rapport auteur-lecteur qui peuvent se jouer sur Internet, puisqu'elle a développé au fur et à mesure du temps des relations amicales avec certaines autrices qu'elle suit depuis plusieurs années sur leur blog ou sur Fiction Press. Elle estime de façon générale qu'à l'heure actuelle, les auteurs sont plus abordables, plus conviviaux dans la relation avec le public. Dans le cas des fictions amateurs en particulier, la communauté va jouer un rôle essentiel puisque les commentaires et les avis des lecteurs et lectrices aident les auteurs et autrices à améliorer leur texte. Donc cette lectrice, Tamara, va veiller, c'est un espèce d'impératif presque éthique pour elle, à donner son avis régulièrement sur les textes qu'elle découvre sur ces plateformes. Dernier point, je voulais parler un petit peu des questions de hiérarchie culturelle et de légitimité dans le parcours des lecteurs et lectrices. Les exemples des personnes que j'ai interrogées illustrent la variété des socialisations à la lecture, des intermédiaires par lesquels les pratiques lectorales des individus se construisent et se développent. Chez certains, c'est la famille qui va jouer un rôle central, avec l'exemple de parents lecteurs qui lisent des histoires à leurs enfants, leur achètent des livres ou les emmènent en bibliothèque. Ceux-là font figure d'héritier au sens de Bourdieu, en particulier quand les goûts construits par ce biais sont culturellement très légitimes. C'est le cas par exemple d'Amélie, fille de médecin, dont la mère lit énormément, essentiellement des livres, et qui lit elle-même environ un livre par semaine, et des choses très, très légitimes, très prestigieuses, comme des essais, de la philosophie, des sciences humaines. Son auteur préféré d'ailleurs est Paul Nizan, ainsi que la presse écrite. Là aussi, elle ne va pas lire des magazines pick-poll, elle lit des choses... plus du journalisme d'investigation, la revue 21, Courrier international, etc. Pour d'autres, c'est l'école qui va jouer un rôle essentiel dans le parcours de lecture. Vous rappelez peut-être de Quentin, le professeur de français que je citais précédemment. Lui, c'est un lecteur qui est issu d'une famille assez modeste, qui a été encouragé à lire par sa mère, donc un goût à la lecture d'origine familiale, mais qui a, dans un deuxième temps, vraiment développé un goût pour la littérature en particulier, pour l'écriture qui est travaillée au niveau du style, par le biais des cours de français. Il parle longuement de la chance qu'il a eue d'avoir des professeurs qui ont su le guider, qui ont su lui donner ce goût pour les belles lettres. Donc au point donc de lui donner envie de faire des études de lettres et de devenir professeur à son tour. Les pères, les camarades du même âge, peuvent également avoir une influence primordiale dans le parcours des individus. tout comme d'autres pratiques culturelles, hein, ce que j'évoquais précédemment, qui s'étendent progressivement à la lecture, ce qu'on a vu avec l'exemple de Yann et des jeux vidéo. Selon leur parcours, les individus font preuve d'une intériorisation variable des hiérarchies de légitimité culturelle. Si certains, comme Mélanie que je citais, ressentent le besoin de combler des lacunes, d'autres prennent plus de distance hein, vis-à-vis de ces injonctions légitimistes et mettent en avant ce que la lecture leur apporte personnellement, que ce soit du diversifiement, de l'évasion, de la réflexion, et font passer ces choses positives que la lecture leur apporte devant tout jugement symbolique sur la qualité littéraire des titres lus. C'est le cas par exemple d'Aurélie. Donc Aurélie lit principalement des feel-good books. Hein. Donc c'est pas elle qui emploie ce mot-là, c'est moi qui commente. Mais voilà, elle met vraiment hein, en avant le caractère humoristique et léger hein, des titres qu'elle lit habituellement. Des romans qui sont drôles, qui parlent d'une vie assez simple en général. J'aime pas les trucs trop prises de tête. Et elle apprécie en particulier les thématiques romantiques, hein, les histoires qui parlent de romance ou de la vie de tous les jours. Donc au moment de l'entretien, elle vient de finir « Les Fehlers » de Susanna Fogel. Et son auteur préféré est Gilles Le Gardinier, hein, qu'elle décrit comme une valeur sûre. Ce qu'elle apprécie dans la lecture, c'est aussi beaucoup de pouvoir s'identifier au personnage. C'est pour ça qu'elle aime bien les histoires qui mettent en scène des personnages qui lui ressemblent, hein, des personnages donc, de femmes trentenaires. En particulier, elle s'intéresse à la psychologie des personnages, hein, à la description de la psychologie et des relations humaines dans les récits. La hiérarchisation légitimiste des récits, des biens culturels, apparaît que très faiblement hein, dans ses propos, pour qui les seules mauvaises lectures seraient les lectures de magazine People. Et elle met également à distance hein, certaines critiques qu'elle a pu entendre à l'égard des romans de Le Gardinier qu'elle apprécie. Elle va revaloriser ce goût jugé peu légitime en se basant sur ses critères personnels de ce qu'est une lecture réussie, hein, à savoir une identification aisée et un déchiffrage fluide du texte, hein, une lecture vraiment sans obstacle qui coule toute seule. Elle oppose ça au roman classique hein, qu'elle a pu lire dans le cadre scolaire, en citant l'exemple notamment du Rouge et le Noir, voilà, jugé comme difficile et pénible à lire. Voilà, des phrases simples, c'est vrai que ça va plus me toucher que des phrases qui font trois lignes et qui sont trop longues. Alors, pour conclure, à travers ces parcours de lecteurs et lectrices, on observe une grande diversité d'usages et de pratiques, mais un élément commun qui me semble ressortir à cet état de l'analyse, c'est la place essentielle de la lecture dans la construction de soi du jeune adulte, hein, dans ce moment d'affirmation de soi en tant qu'individu. Par exemple, pour Yann, hein, il s'agit de s'affirmer en tant qu'individu qui quitte le nid familial, de se distinguer des goûts lectoraux paternels. Pour Aurélie, que je viens de citer, les romans humoristiques et sentimentaux aident à prendre confiance en soi et à en apprendre plus sur les relations amoureuses pour construire et parfois pour surmonter des difficultés dans sa propre relation conjugale. Pour Mélanie, la lecture permet de s'informer, d'affirmer ses valeurs et de militer via des échanges en ligne et une activité associative. Pour Nathan, la lecture de manga constitue un espace d'évasion face à des conditions économiques difficiles. Je n'ai pas trop détaillé, mais c'est vraiment quelque chose qui revient très régulièrement hein, dans son entretien. C'est un lecteur qui a dû faire un emprunt pour financer sa formation professionnelle, etc. Et ces lectures vont aussi donner lieu à des sociabilités lectorales valorisantes, socialement valorisantes, hein, à travers les conventions sur la culture japonaise. Donc en définitive, pour la plupart des individus interrogés, la lecture apparaît comme un espace de liberté où des jeux avec les normes sont possibles. Je vous remercie de votre attention. Et si vous voulez en savoir plus, hein, je vous indique que il y a donc 4 premiers portraits de lecteurs détaillés, hein, donc d'une dizaine de pages chacun, qui sont d'ores et déjà publiés sur le site professionnel de la BPI. Merci.
Circuler un micro. Merci, merci beaucoup, Élodie. Alors, on voit effectivement que le tableau n'est pas le même que celui qu'on peut obtenir avec les grandes enquêtes généralistes sur les pratiques culturelles et sur les pratiques de lecture en particulier. Nous, c'était ce qui nous avait précisément intéressé à la BPI, au service études et recherches, quand on a passé ce contrat avec le centre Max Weber. Avec Élodie et avec Christine Détré, c'était d'aller voir justement, non pas contester voilà, ces données quantitatives, statistiques nationales, non pas contester la baisse avérée, hein, des pratiques de lecture. Là, je vous renvoie à la dernière édition 2018 de l'enquête sur les pratiques culturelles des Français, mais essayer d'aller voir aussi dans le détail, dans les marges, au niveau individuel, hein, donc à travers des méthodes qualitatives, si on ne pouvait pas témoigner d'une autre forme de rapport à la lecture. Je serais curieux, moi, de voir comment les personnes que tu as rencontrées et interrogées répondraient à cette question sur les pratiques qui est contenue dans l'enquête pratique culturelle des Français sur le nombre de livres lus au cours des 12 derniers mois. Je serais très curieux de voir ce qu'ils vont comptabiliser, ce qu'ils vont évacuer, ce qu'ils vont laisser de côté, ce qu'ils vont conserver dans la balance, hein, puisqu'on voit que le tableau est quand même assez, assez riche, et ça fait, je trouve, un portrait intéressant donc des pratiques, comme tu le dis, des pratiques de jeunes adultes lecteurs au XXIe siècle. Vous avez peut-être des questions à poser à Élodie, c'est le moment. Tu peux retirer ton masque, nous ouais. Sommes à une distance.
Bonjour, je voudrais savoir, est-ce que vous pourriez me dire quelques mots de la façon dont vous avez constitué votre échantillon et est-ce que vous avez rencontré de faibles lecteurs ? Parce qu'on a l'impression que toutes les personnes que vous avez présentées ont un rapport assez évident à la lecture de livres.
Oui. Pour la constitution de l'échantillon, j'ai pas du tout cherché à faire quelque chose de représentatif, hein, évidemment, puisqu'il s'agit pas d'une enquête quantitative. Par contre, j'ai cherché à avoir un échantillon le plus diversifié possible pour pouvoir justement saisir des parcours variés, différents, et des rapports à la lecture, là aussi, variés. Donc j'ai procédé en multipliant les points d'accès, si on peut dire, aux lecteurs, c'est-à-dire en essayant d'entrer en contact avec les lecteurs via différents canaux. Donc je suis passée par des bibliothèques, alors là aussi en variant, hein, des bibliothèques de centre-ville, des bibliothèques en zone rurale, et puis par des librairies, donc des librairies généralistes, que ce soit voilà, des librairies indépendantes ou des grosses enseignes, mais aussi des grandes surfaces culturelles, voilà, du type Cultura, Espace Culturel Leclerc, etc. Toujours avec cette idée en multipliant les lieux d'approvisionnement, de pouvoir diversifier un maximum l'échantillon. J'ai essayé aussi d'avoir un équilibre relatif entre hommes et femmes, même s'il y a une légère surreprésentation des femmes, mais comme on sait par ailleurs que les femmes ont tendance à lire plus, statistiquement ça ne me semble pas trop dramatique, et voilà, essayer de varier également, hein, les origines sociales des personnes interrogées. Et du coup, pour répondre à la deuxième partie de votre question, est-ce qu'il y a des faibles lecteurs ? Oui. Finalement, dans les personnes dont je vous ai parlé, Nathan, donc, qui est un lecteur principalement de manga, si on regarde au niveau quantitatif, il lit un tout petit peu de livres également, mais c'est plutôt très rare. Il va surtout lire des mangas et des bandes dessinées. Et voilà, après, au niveau quantitatif, c'est pas énorme. Ça va être 2-3 chapitres par semaine, hein, puisqu'il suit en fait les sorties des séries qu'il suit. Chaque semaine, il va regarder les nouveaux chapitres, hein, qui sont sortis de chaque série. Donc, quantitativement, ça ne fait pas quelque chose d'énorme. Et puis, Yann, dont j'ai parlé également, là, c'est pareil. Je pense qu'au niveau statistique, c'est plutôt quelqu'un qu'on mettrait dans les petits lecteurs, puisqu'il y passe... En termes de nombre de livres, il dit qu'il va lire un livre peut-être tous les 2 mois. Donc ça ne fait pas un total non plus énorme, mais c'est des lectures qui sont assez investies. En fait, ça c'est un point assez intéressant, hein, que je trouve, c'est que même sur les profils de petits lecteurs, quantitativement, dans cette enquête, on a un rapport à la lecture qui est significatif. C'est-à-dire que la lecture, finalement, c'est pas quelque chose qui peut se faire de façon distraite, hein, comme avoir la télévision allumée en fond quand on fait autre chose. Ça implique quand même un investissement. Et voilà, j'ai assez peu, finalement, d'exemples de lecture qui seraient faites un petit peu par-dessus la jambe. Je sais pas. Voilà. J'ai répondu à votre question ? Ouais ?
Bonjour, merci. Je me posais la question des critères qui vous ont permis de dresser cette hiérarchie culturelle entre les différents types de lecture.
Alors ça, c'est pas moi qui, c'est pas mes critères personnels, hein. Quand je parle de hiérarchie culturelle, je fais référence aux hiérarchies symboliques des biens culturels qui sont habituellement faites, par les instances culturelles dominantes. Donc ça va être la culture classique, ce qui est transmis par l'école, les romans qui reçoivent des prix littéraires, ce genre de choses, en opposition à des lectures qui sont généralement jugées moins intellectuelles, moins prestigieuses, etc.
Vous avez dit avoir recruté votre échantillon par des bibliothèques, par des librairies ou par des grandes surfaces. Est-ce que cela amène des différences dans les faits observés et notamment parce que quand vous dites que l'un a un modeste pouvoir d'achat, on pourrait se dire mais la fréquentation d'un établissement pas trop cher, si ce n'est gratuit, pourrait compenser. Donc est-ce que vous avez un rapport à la, je dirais pas à la prescription, mais en tout cas à l'offre qui est jugée différemment suivant l'origine de vos lecteurs?
Alors oui, ça c'est une des questions que j'essaye d'explorer aussi, hein. J'ai pas encore fait de comparaison vraiment systématique sur la question en fonction des lieux de recrutement. C'est évident qu'il y a des différences en termes de lieux, de moyens d'approvisionnement et de prescription selon les capacités économiques des individus, selon leur situation géographique. Les personnes que j'ai recrutées en milieu rural, par exemple, hein, vont souligner les limites en termes d'approvisionnement. Hein. J'ai aussi observé des effets à ce niveau-là des déménagements des individus, puisque je les interroge sur leurs pratiques. J'ai plusieurs exemples de cas où les pratiques de lecture ont été restreintes suite à un déménagement dans une ville avec moins de librairies, ou à la campagne, sans, du coup, avec pas du tout de librairies ou de bibliothèques à proximité, etc. Ouais. Mais ça, c'est encore un point, je pense, qui mériterait d'être... qu'il va falloir que j'explore plus systématiquement sur les différents profils.
On peut peut-être rappeler que dans le corpus, il y a une bibliothécaire
oui.
qui a été interrogée et qu'elle a un profil assez intéressant. Enfin, on en a parlé assez souvent ensemble, puisqu'on travaille sur les matériaux d'Élodie, et donc Damien, notamment, on commente avec elle, on réagit aussi aux entretiens hein, qui ont été réalisés, et on participe à l'élaboration des portraits. Et ça, je dois dire qu'elle, pour le coup, elle est assez intéressante, elle aussi, dans ses pratiques de lecture, voire dans son compartimentage. Avec son travail, avec son... C'est-à-dire que, sauf erreur de ma part, elle n'en parlait pas beaucoup avec ses collègues oui, bibliothécaires. Et là, on était aussi sur des questions de légitimité. Quoi.
Tu veux que j'en dise un mot ?
Oh, je veux bien.
Ouais. alors, du coup, c'est Tamara que j'ai cité un petit peu pour ses lectures de fiction amateur. Ce que j'ai pas précisé, c'est dans quel domaine, hein, ce qui l'intéressait en particulier dans ses fictions. C'est une lectrice qui va lire quasiment exclusivement de la romance, et en particulier depuis quelques temps, au moment de l'entretien, 2-3 ans, elle a développé un goût spécifique pour la romance homosexuelle, donc des histoires romantiques hein, qui mettent en scène des relations entre personnages de même sexe, et en particulier romance homosexuelle entre personnages masculins. Donc là, on est vraiment sur un goût extrêmement spécifique, hein, une littérature de niche. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a vraiment, développé une expertise sur ce sujet qui est assez impressionnante, hein, puisque voilà, elle connaît les noms des auteurs, elle sait les comparer, elle sait repérer les différents styles qu'il y a dans ces récits. Certains sont plus érotiques, d'autres sont plus la sexualité est représentée de différentes façons, et elle connaît aussi très bien les éditeurs qui correspondent à ces différents styles. Hein, par exemple, elle, son éditeur préféré, c'est MXM Bookmark. Et c'est intéressant parce que j'avais été regarder le site de l'éditeur, et en fait, la ligne éditoriale hein, de cet éditeur, quand je compare la ligne éditoriale de l'éditeur avec ce qu'elle me décrit, de ce qu'elle recherche dans la lecture, donc des histoires avec beaucoup d'émotions, mais qui finissent bien, des choses très... ouvertes, ouvertes d'esprit, hein, etc. Ça correspond totalement en fait à la ligne éditoriale de cet éditeur-là. Donc elle a vraiment bien repéré ce qui lui plaisait. Et dans l'entretien, elle le dit. Il y a aussi, elle cite d'autres éditeurs en disant voilà, il y a aussi Juno Publishing, mais là c'est un peu plus, ça me plaît un peu moins. Il y en a un autre, je crois, c'est Dream Spinner, je suis plus sûre, où elle dit bon là, la qualité c'est variable. Voilà, donc vraiment une connaissance assez fine de cette littérature très spécifique. Mais à côté de ça, on voit que c'est quelque chose qui est une lecture qui est un petit peu difficile pour elle à assumer, hein, puisqu'elle en parle très peu avec ses collègues bibliothécaires, notamment par peur de leur regard, de leur jugement sur ce type de lecture. Hein. Il y a un passage assez marrant dans l'entretien où elle me dit « Quand on me demande c'est quoi la dernière chose que j'ai lue, souvent je bug parce que je réfléchis un petit peu, parce que je réfléchis la dernière histoire hétéro que j'ai lue pour pouvoir la citer, et ça prend un petit peu de temps. » Voilà, c'est vrai que là aussi en termes de légitimité de la lecture, hein, on a quelque chose qui est assez intéressant.
Dans votre intervention sur les différents profils, hein, moi je suis particulièrement intéressée par le passage du jeu vidéo à la lecture, donc la lecture fantasy, j'imagine, hein, du genre fantasy. Je ne sais pas si on peut trouver d'autres témoignages, si ce sont des phénomènes rares ou des phénomènes qui sont importants, mais je trouverais intéressant
On est toujours en train d'opposer la lecture avec les autres types de loisirs, et on sait que le jeu vidéo, pour certains adolescents, voire adultes, est un temps très important de jeu. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'intéressant et qui intéresse, je pense, également particulièrement les bibliothèques, où on a souvent développé des rayons fantasy importants et des rayons, une pratique du jeu vidéo. Et voilà, donc c'est moins une question que ce phénomène qui n'est pas du tout exploré, j'ai l'impression, et dans cette année qui vient d'être décidée comme étant une année de la lecture par le président de la République, je trouve qu'il y a peut-être des corrélations à faire sur des pratiques culturelles qui ne sont pas forcément liées et qui pourraient être vraiment intéressantes en termes d'études.
Oui, c'est une question très intéressante, effectivement. Alors, moi, je pense que ce phénomène, il est moins rare qu'on pourrait le penser. Parce que, alors, j'ai fait par ailleurs une thèse sur la lecture de science-fiction et fantasy chez les jeunes adultes également. Et dans ce cadre-là, c'est un phénomène que j'ai observé à plusieurs reprises également. Un passage, ou une arrivée à la lecture via d'autres pratiques culturelles. Toujours au sein de cet univers imaginaire, hein, à partir du moment où il y a un intérêt pour les univers de fantasy ou de science-fiction. Alors évidemment, tous les joueurs de jeux vidéo ne se transforment pas en lecteurs, mais parmi les joueurs de jeux vidéo, parmi aussi les joueurs de jeux de rôle, hein, j'ai observé ça aussi, parmi les gens qui ont une passion pour le cinéma de science-fiction, donc voilà, ça peut venir de différents univers culturels. Il peut y avoir un transfert qui se fait à un moment vers la lecture. Ça, j'ai observé à plusieurs reprises, en tout cas dans le cas des univers imaginaires. Oui.
Peut-être une dernière question, oui.
Bonjour, j'avais deux questions. Alors, je ne sais pas. Bon. La première, c'est est-ce qu'on peut en tirer des choses en termes de politique documentaire? Je pense à cette littérature de niche. Enfin, voilà, comment on s'approprie en fait cette question en tant que bibliothécaire? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous imaginez compléter ces portraits par des portraits aussi fouillés et détaillés de non-lecteurs? Et de pourquoi ils ne passent pas, par exemple, chez des gens qui font du jeu vidéo, de la fantasy, qu'est-ce que ça représente pour eux, pourquoi ils ne passent pas le cap, en fait. Ouais.
Alors, la deuxième question que vous soulevez, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'évidemment, les non-lecteurs sont souvent le point aveugle des études sur la lecture. ça pourrait paraître logique, mais c'est vrai que c'est une vraie question méthodologique. Dans le cadre de cette enquête-là, on a choisi plutôt de se concentrer sur les lecteurs, mais c'est vrai qu'on s'est posé à un moment la question des non-lecteurs. On a essayé d'inclure un maximum des faibles lecteurs. Le problème peut-être avec les non-lecteurs, c'est que c'est pas forcément évident de décider comment les attraper, comment les recruter. Je ne sais pas si j'ai vraiment de réponse à votre question, mais je suis d'accord avec vous que c'est un point qui mériterait des études. Peut-être effectivement par le biais des univers imaginaires, ça pourrait être une façon. Voilà, je pourrais essayer d'interroger des amateurs de science-fiction et fantasy qui ne lisent pas. Ça, c'était aussi une question que je m'étais posée dans le cadre de ma thèse et que j'ai un petit peu mis de côté pour l'instant, mais qui est très intéressante. Et pour votre première question, je suis un petit peu embêtée pour vous répondre parce que je suis chercheuse, hein, donc je ne suis pas bibliothécaire moi-même, ce serait peut-être plutôt à l'Assemblée, peut-être d'avoir des idées, des pistes à ce niveau-là.
C'est vrai que, par exemple, nous étions assez surpris de certains titres ou de certains éditeurs qui avaient complètement échappé à notre radar, hein, pour le coup. Moi, ce qui m'a amené ensuite à aller dans un dans un espace culturel Leclerc pour découvrir des rayonnages que je ne voyais jamais dans les librairies que j'ai l'habitude de fréquenter. Des rayonnages de franchisés, les rayonnages de romances dont tu parlais, des rayonnages de novélisation qui sont considérables. Et là, pour le coup, je ne sais pas très bien effectivement si c'est présent, il me semble, hein, dans les bibliothèques, mais si c'est massivement présent, si c'est porté, si c'est... Mais ça, c'est une question qui revient peut-être plutôt à la salle.
Ouais. Oui. Du coup, juste pour l'exemple de Tamara, hein, que j'évoquais sur la romance homosexuelle, au niveau de l'approvisionnement, justement, elle dit que voilà, comme elle a des goûts très spécifiques, justement, en bibliothèque, elle ne trouve pas grand-chose, hein, et que voilà, la romance plus classique, harlequin, etc., elle en peut plus. Donc voilà, elle achète principalement sur Internet, parce que... en raison justement de difficultés à trouver la littérature spécifique qu'elle cherche. Elle dit que quand il lui arrive de passer à Paris, il y a certaines librairies où on peut en trouver, mais voilà, dans la ville de province où elle habite, elle ne trouve jamais rien. Donc elle achète principalement sur Internet.
En tout cas, elle ne les fait pas commander par sa bibliothèque.
Non plus, voilà.
Ça ne reste pas au cahier des lecteurs, ouais.
Des uns se confrontent à celles des autres, parce qu'on reçoit justement, parfois par Eurequa, des questions-réponses sur le sujet, avec des questions de bibliothécaires, alors on suppose moins professionnels, mais qui nous interrogent sur la légitimité de mettre des ouvrages non trouvés en librairie, en vraie librairie, voire même, ça me revient à l'esprit, parce qu'on a une question là, sur un ouvrage qui était auto-édité, justement... Une publication personnelle qui n'avait pas d'ISBN, et le sujet était très intéressant, c'est est-ce que j'ai le droit de mettre un ouvrage qui n'a pas d'ISBN dans la bibliothèque. C'est une... Donc effectivement, je pense que les deux univers, les deux surmoi ne favorisent pas la présence de ces ouvrages dans nos rayons.
Je pense, Christophe, que tu t'en souviendras mieux que moi, mais pour moi ça fait écho au résultat de l'enquête de Stéphane Bonnery, et qui étudie les livres que les gens ont à domicile. Et a priori, le recensement des livres montrait qu'il y avait beaucoup d'éditions qu'on ne trouve pas dans les bibliothèques, qu'on ne trouve pas sur Electre, et que effectivement les lectures personnelles et domestiques ne trouvent pas forcément d'écho pour les personnes qui se déplacent en librairie ou en bibliothèque. Mmh.
C'est juste, ouais. Et il était question essentiellement de livres jeunesse dans ce cadre, ouais. Très juste.